curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on va parler de cette réforme du droit de la famille, la création de ce qu'on appelle l'union parentale. Bref, est-ce que c'est une bonne réforme qui est proposée par le ministre Jolin Barrette? Luc?
Des bons éléments là-dedans. L'union parentale, ça permet de partager le patrimoine familial à partir du moment où il y a eu la naissance d'un enfant. Donc, si vous aviez une maison avant, t'es un gars, tu te fais une blonde, t'avais une maison, ça tombe pas dans le bucket, là. Il faut que ça soit à partir du moment où l'enfant naît. Là, lors du partage, quelle que soit la contribution des deux parents, à la contribution à la maison, par exemple, il y a un parent qui paye, mettons, 70 % l'autre qui paye 30 % de l'hypothèque, elle va se partager 50 % 50-50. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est une mesure de droit compensatoire. Si jamais la femme considère qu'elle n'a pas fait d'argent parce qu'elle était à la maison pour les enfants, pendant ce temps-là, son mari en aurait fait beaucoup parce que, par exemple, il serait un homme d'affaires et que ça aurait marché instantanément, ce qui est un peu le cas d'Éric et Lola, là, le droit compensatoire dirait je pourrais aller en cours pour démontrer qu'il y a eu un enrichissement relatif beaucoup plus important pour l'homme que pour la femme. Ça, c'est une deuxième mesure. Il y a l'encadrement de la violence judiciaire. Ça, c'est très bienvenu, comme par exemple quelqu'un qui, à répétition, reporte un jugement, ce qui fait augmenter les frais judiciaires, ou alors fait des demandes de jugement à répétition, ce qui fait encore augmenter les frais judiciaires. Donc, tout ça, puis l'usage de la résidence principale pour le conjoint, pour un des deux conjoints, c'est un usage, un droit d'usage. En attendant qu'il y ait partage, on considère que la femme peut rester dans la maison parce que c'est le centre de vie pour les enfants aussi. Alors maintenant, c'est une bonne affaire, pas une bonne affaire. Moi, je suis pas Pierre-Yves McSween, puis j'ai pas regardé chaque détail de chaque virgule.
Mais je peux te répondre à ce volet-là parce que le ministre reconnaît lui-même. Tout le volet fiscal qui est inéquitable n'a pas été réglé.
Ah, c'est ça.
N'est pas touché. Ils sont en discussion avec le ministère des Finances. Fait que ça, c'est très clair là-dessus.
Bon, merci. Je reconnaissais mon incompétence, mais je suis content de voir qu'elle est partagée.
Que d'humilité, mon cher.
C'est très bon.
Bravo.
Mais, il y a un élément sous-jacent à ça, qu'on va pouvoir largement discuter, dont on va pas. C'est cette idée selon laquelle, à partir du moment où tu fais un enfant, la contribution des deux parents est à peu près la même. Que tu sois toi au travail, elle à la maison, que vous ayez tous les deux un travail, elle travaille un peu moins, mais plus souvent à la maison. Qu'il y en a un qui est payé un peu plus que l'autre, puis l'autre contribue d'une autre. La loi dit clique, c'est la même. C'est sûr que ça marchera pas pour toutes les couples. Il y a des couples qui vont pouvoir se retirer de ça en disant non, dans notre cas, c'est pas la même contribution, OK? Mais la loi dit ça. La loi dit, on fait l'hypothèse que c'est la même.
Nathalie?
Moi, je trouve que c'est une excellente réforme. Le ministre Simon-Jeanin Barrette va passer à l'histoire comme étant le ministre qui aurait eu le courage de moderniser le Code civil pour mieux protéger les enfants nés et adoptés, il faut l'insister, et adoptés hors mariage, de même que les conjoints dits vulnérables. J'ai envie de vous dire qu'il était temps de passer à l'action parce que quoi, ça fait depuis une dizaine d'années, là, depuis le fameux jugement Éric Lola, qu'on discute, que les juristes discutent de la pertinence, de la faisabilité d'amender le Code civil pour encadrer juridiquement la réalité des couples qui vivent en union libre. Et ça, c'est la réalité juridique, mais sur le plan sociologique, j'ai envie de vous dire qu'il était temps également qu'on passe à l'action parce que le Québec a une situation unique au monde. Et historiquement, on n'a jamais connu autant de couples qui étaient en union libre. Il y a 65 enfants qui naissent en mariage. Les couples en union libre, deux données statistiques pour vous illustrer à quel point la réalité a changé avec les années. En 81, 8 % des couples au Québec vivant en union libre. En 2021, c'est 42 %. En France, c'est 18 %. Au Canada, 23 % aux États-Unis, 12 %. Donc, on est une bibitte un peu à part dans le monde pour ce qui est de la réalité des couples qui décident de ne pas se marier. Et moi, cette réforme, pour moi, elle est la voie de la modération et de la souplesse. La souplesse parce que on peut se soustraire à certaines obligations qui sont prévues dans la loi souplesse également parce que des couples qui ne sont pas touchés par cette réforme qui va entrer en vigueur à partir du 30 juin 2025 pourraient volontairement décider d'être en fait de faire partie de cette réforme pourraient embrasser cette réforme devant notaire là en décidant
mais donc, en toi et moi là Mettons, Nathalie, là, on est ensemble, puis on pense avoir un enfant. Première affaire, je te dis, on va aller chez le notaire pour pas être certain que le patrimoine soit là-dedans. Là.
Mais je pense
ça part mal la relation quand même.
Mais Paul, je pense que les notaires vont devoir aménager des chambres pour que les relations se fassent directement chez le notaire.
Ben, c'est parce que c'est sûr que c'est un peu délicat, parce que, comme tu le disais, ça s'applique le jour où l'enfant arrive sur la planète, là. Puis là, toi, tu commences ta vie de couple, ou en tout cas, t'as poursuivi avec un conjoint, tu dis, on s'entend, hein, mon amour, il n'y aura pas de patrimoine entre nous deux. Pis...
Mais moi, je pense qu'il n'y a personne qui va faire ça.
Ben, en tout cas, il peut y avoir
dans
des cas,
esprit, mais... dans un esprit... tu fais un enfant ensemble. T'es dans un esprit de partage, d'amour. Ben. Puis là, il faudrait que tu sortes ton formulaire dans le sort du lit en disant... pour la maison, là.
On dirait que vous vivez dans un monde de licorne, là. Allô, les gars, ce matin, c'est parce qu'il y a une réalité. En fait, on fait tout ça pourquoi? Parce que il y a des femmes. On parle des femmes, mais ça touche bien sûr ça touche les hommes aussi, mais la plupart du temps, c'est des femmes et des enfants qui subissent les conséquences d'une séparation où il y a où le partage des biens ne se fait pas de manière équitable, puis les femmes se retrouvent dans une situation importante de pauvreté.
Tu penses-tu qu'il y a bien des gens qui vont être capables d'aller de débarquer à deux chez le notaire et renoncer à leurs droits?
Je sais pas. J'ai aucune idée, Paul, mais la loi le prévoit. Il faut que la loi prévoit certaines dispositions, certaines situations, pardon. Sur le plan fiscal, je partage avec vous une discussion que j'ai eue avec Annie Villeneuve, notre collègue de Rythme FM à Québec. Elle me disait, parce qu'elle a vécu une séparation qui était extrêmement difficile pour elle s'est retrouvée qu'une pension alimentaire de 104 $ par mois, alors que son ex-conjoint avait beaucoup plus d'argent qu'elle. Elle me disait, aussitôt qu'il y a séparation, les femmes doivent rapidement changer d'adresse, c'est-à-dire avoir une adresse différente de celle qui était valide avec son ex-conjoint. Pourquoi? Parce que si le changement d'adresse n'est pas fait rapidement, puis ça peut être une adresse temporaire, c'est que tout système sur le plan fiscal se met en branle. Et là, l'homme qui, lui, par exemple, a gardé la maison pourrait se retrouver ou peut se retrouver avec les allocations familiales, tu sais, qui sont versées à l'adresse.
Il y a un mélange de fiscalité à faire, là.
Ben voilà, important. Exactement. Oui, voilà. Ben c'est ça. Je donne un exemple concret. Vous parliez de fiscalité tout à l'heure. Ça, c'est un bon exemple. Mais je partage cette réalité, ce truc qu'il faut faire, ce geste qu'il faut poser pour éviter de se retrouver dans l'embarras. J'allais également ajouter tout à l'heure que cette réforme, elle s'inscrit dans deux autres réformes qui ont marqué la façon dont les couples gèrent leur patrimoine. La loi sur le patrimoine familial adoptée en 89. Monique Gagnon-Tremblay, ministre dans le gouvernement de Monsieur Bourassa, Robert Bourassa. Ça. Et c'est la première fois qu'on va prévoir, dans une disposition législative, le partage du patrimoine pour les couples qui sont mariés. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ça a créé énormément de réactions.
Il y a eu un festival de visite chez les notaires à cette époque-là. Ben oui, parce que tu avais une période aussi pour te soustraire à cette loi-là.
Ben voilà.
Peux-tu te dire qu'il y en a qui ont dit non, c'est pas vrai que ça va être 50-50, là?
On m'a raconté qu'au Conseil des ministres, il y a des ministres, hommes, vous voyez, qui étaient furieux après Monique Gagnon-Tremblay, qui, eux, voyaient effectivement leurs biens éventuellement être séparés, partagés avec leur tendre moitié.
Il y a un petit sprint séparation chez le notaire.
Et l'autre chose, l'autre petite révolution qu'on a opérée, c'est la perception obligatoire des pensions alimentaires. Mais il faut jamais oublier que toutes ces grandes réformes qui ont été menées au fil des années l'ont été pour mieux protéger les enfants, puis pour mieux protéger les conjoints qui se retrouvent après une séparation ou divorce dans une situation précaire. Alors, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, parce que j'entends des gens qui s'objectent à cette réforme, mais qui peut être contre le fait de mieux protéger nos enfants puis les conjoints qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité?
Mais c'est parce qu'en fait, il y a plein de situations particulières. C'est pas l'ensemble, en gros, là, on s'entend que c'est bon puis c'est vrai. Puis tu sais quoi? La contribution de l'homme et de la femme est à peu près la même à la famille. Ce principe-là, là, la contribution de il s'appuie sur une réalité. Le salaire, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures travaillées à la maison, quand tu mets tout ça à plat, la contribution est à peu près la même dans la grande majorité des familles. OK? Ça, c'est bon. Mais il y a des cas particuliers. Puis ces cas particuliers-là seront discutés, j'imagine, par les Pierre-Yves Maxime de ce monde, mais où il n'y a pas eu entente sur l'achat d'une maison. Par exemple, quelqu'un...
Ah, mais non, mais...
Il n'y a pas eu entente sur le fait que l'homme parte une business, puis que, mettons, que cette business-là fait beaucoup d'argent, puis etc., etc. Ou alors, tu sais, des cas particuliers où il y avait un gars qui disait, regarde, moi, je vais payer la maison, toi, tu payeras l'épicerie.
Ah oui.
Tous les cas particuliers.
Il y en a beaucoup.
Voilà.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, crise du logement. Hier, il y avait comme deux événements de presse en même temps. La Ville de Montréal qui nous annonce un registre, mais qui va être entre les mains d'un organisme qui n'est pas contraignant. Il n'y a pas d'obligation légale de déclarer, par exemple, le prix des loyers pour les propriétaires. Puis M. Trudeau qui veut avoir la Charte canadienne des droits des locataires, de créer un registre et même un bail pan-canadien. Alors, évidemment, la réponse de Québec est venue assez vite. Alors, est-ce qu'on va vraiment protéger avec ces outils les locataires? Nathalie.
Ben, dans le contexte de la crise actuelle, non. Toutes les mesures qui ont été annoncées, pour moi, sont des mesures accessoires. Ce qui est urgent, c'est construire du logement. Et je vous rappelle qu'au Québec, là, pour résoudre la crise du logement d'ici 2030, il faudrait construire 1,2 million de nouveaux logements, toutes catégories confondues. Ça, c'est 170 000 logements par année. Puis l'année passée, on en a construit 38 900. Donc, on est loin du compte. Le fédéral, ma foi, M. Trudeau est en train, et son gouvernement, là, sont passés maîtres en matière de provocation. Bravo pour la réaction du Québec, ministre Roberge et la ministre Duranceau, qui ont eu raison là vraiment de dénoncer une fois de plus cette décision d'Ottawa de faire dans les compétences, de se mêler des compétences des provinces. Trois choses qu'a annoncé M. Trudeau hier. Tout d'abord, la création d'un fonds de protection des locataires à l'échelle du pays, 15 millions de dollars. C'est un fonds qui serait destiné aux organismes communautaires qui veillent à la défense des droits des locataires. Le fédéral veut créer une charte des droits des locataires du Canada et veut également, puis ça, honnêtement, ça m'a renversé, tenir compte des paiements de loyer dans la cote de crédit. Là, je me suis dit, pardon, tu sais, écoute, la cote, depuis quand le gouvernement fédéral ou les gouvernements tout court viennent se mêler de notre cote de crédit? Bien honnêtement, là-dessus, je suis extrêmement sceptique. Pour ce qui est de Montréal, Paul se référait à la volonté de la Ville, non pas de créer un registre officiel, mais d'accompagner un organisme qui le fait sur une base volontaire. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Montréal, je dois dire, c'est qu'on veut avoir les propriétaires négligents à l'œil. On a déjà mandaté les inspecteurs du service de l'habitation qui auront l'objectif de réaliser 10 000 visites par année. Ce que je comprends, c'est que déjà des visites de ce type qui ont démarré. Toutes les inspections, les résultats d'inspection seront rendus publics. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà des contraventions qui seront données, on va inscrire au registre foncier un avis de détérioration des immeubles en mauvais état, ce qui aura pour effet d'informer les prêteurs et les assureurs. Et il se pourrait que les banques réagissent en cognant à la porte du propriétaire pour dire hey, il y a quelque chose qui marche pas là, tu dois rénover ton immeuble, sinon tu es dans le trouble. Enfin, mais au-delà de ça, au-delà de l'intérêt, moi que je trouve, au-delà de la pertinence de cette dernière action, de manière générale, je trouve qu'on est plus dans l'accessoire que dans une réelle volonté de faire une différence pour les locataires. Parce que la meilleure façon de défendre les droits des locataires, c'est de leur offrir un logement abordable qui respecte leur capacité de payer.
Luc.
Moi, je m'en fous que ce soit Québec, Ottawa, la Chine, venez faire un registre des baux ici, venez le faire. On s'en fout en autant que ce soit fait. Et c'est pas la patente là qui a été annoncée par Valérie Plante, projet Montréal en fin de semaine. Désolé pour mon ancien parti, là, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Là. Il y a 20 000 noms inscrits là-dedans, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Puis d'ailleurs, pendant que le registre était mis en œuvre par Vivre en Ville, un organisme que je respecte au plus haut point. Ben il y a eu une augmentation des loyers qui changent de main, là. Les loyers qui changent de main. De 18,7% en un an. Ça te dis-tu comment que le registre marche pas, ça? Ça te dis-tu comment que la régie marche pas? Ça te dis-tu comment que le tribunal administratif du logement marche pas? Alors, puis c'est quoi la réaction de Legault? Criquet. Bruit de criquet. Là, c'est en train. Ça, ce 18,7%, ça sert un an. Là. Multiplie ça par 5, parce que Nathalie l'a dit sur le besoin de construction de logements est gigantesque. Il n'y en aura pas de construit. Ça va prendre du temps avant de lancer ça. Mettons que ça va prendre 5 ans avant qu'il y ait un début de rééquilibrage en vue. Ben pendant ces 5 ans-là, ça va continuer de se dégrader. Et ça, c'est une trahison pour les locataires. Je veux dire, c'est une trahison par rapport au slogan qui était d'enrichir les Québécois. C'est une modification complète de leur statut. Hier, il y avait un reportage sur les infirmières qu'on recrute à l'étranger. 1000 infirmières, la plupart arrivaient ici en disant « Mais vous êtes fous, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça comment? On vous nous donne 500 $ par semaine pour nos études. » Oui, c'est ça qui est annoncé. C'est ça que coûte le logement. Et si tu arrives ici avec des enfants, une dame qui arrive du Togo avec des enfants, elle doit le soir aller travailler dans un CHSLD après sa journée d'études pour aller chercher un 200 $ de plus pour nourrir le monde. Et il y a beaucoup de gens, il y a le tiers des immigrants qui arrivent ici qui disent « avoir su, on serait pas venu. Et ça, c'est ceux qui parlent, parce qu'on leur a mis le micro en dessous du nez, mais c'est comme ça pour toutes les catégories de personnes. On est en train de changer la sociologie de Montréal, ville qui était accessible. Tu sais, la chanson de Beaudommage, là, où il vivait à 5 sur la rue Saint-Vallier, terminée. Aujourd'hui, Montréal change sa sociologie. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres. Montréal, une ville qui n'attire plus.
Moi, là, je trouve que Mme Plante a des belles lunettes roses parce que la réalité, en termes de mise en chantier, là, et c'est pas moi qui l'invente, là, c'est la Société canadienne d'hypothèques et de logements, ben, c'est -30, -35% par rapport à l'an dernier. Janvier, février, c'est en baisse encore. Il y a de moins en moins de mises en chantier à Montréal. Il y a de plus en plus de bureaux vides à Montréal, ça paraît. Puis là, on nous annonce une charte, pas une charte, mais un registre plus ou moins contraignant. Ou enfin, pas du tout contraignant.
Pas du tout volontaire.
Alors, la question, pourquoi on construit pas à Montréal si on est capable de construire ailleurs? Pourquoi ça a l'air toujours plus compliqué? Pourquoi ça lève pas de terre à Montréal? J'ai pas à répondre.
Ben, moi, j'en ai quelques éléments de réponse. Premièrement, il y a, tu sais, dans toutes les propositions qui ont été faites, bon, tu sais, le coût du terrain, il s'est envolé, le coût des matériaux, 50% de plus pour le béton, on l'a vu dans le cas de la maison pour femmes violentées à Rouyn-Noranda. Il y a plein de coûts qui ont augmenté. Néanmoins, les villes sont arrivées avec des solutions. Il y a eu un congrès des villes du Québec, puis ils sont arrivés avec 50 solutions. Une de ces solutions-là, c'est que ça prend plus de monde à l'urbanisme. Là. Vous devez dégager du monde à l'urbanisme. Puis le faire, tu sais, ça prend un plan, un Marshall. Là. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. On est en état de crise, il faut réagir comme si on était en crise. Fait que là, double les ressources au permis. Double les ressources au permis. Je sais qu'on est dans une situation totalement dramatique en termes de finances publiques à la Ville de Montréal, et on le cache là, sous des beaux discours, mais c'est dramatique. Là, okay? Et doubler au permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper ailleurs. Ça veut dire avoir du courage. Ça veut dire, regarde, Simonac, je sais qu'on a besoin de bibliothèques, de piscines puis de centres de soccer, mais là, non. Pendant un an, pendant deux ans, on va couper, on va mettre du monde au permis. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut accepter des projets. Il faut accepter. Puis là, il y a d'autres solutions, comme par exemple une maison avec un plan uniforme où on inverse le fardeau de la preuve. C'est-à-dire que la ville arrive avec des terrains en disant, sur ce terrain, vous pouvez construire ce type de bâtiment-là, avec un catalogue. Et donc, tu passes à peine au permis. La ville t'a donné l'autorisation à l'avance. Et ça va t'économiser 30% des coûts. Donc, il y a des solutions, puis il faut les mettre en œuvre. Il y a bruit de criquet partout. Fait que là, maintenant, le fédéral dit, je vais m'en mêler. Puis le provincial, non, ben non, je suis provincial. Ben, je suis provincial, t'avais juste à t'en occuper d'abord.
Non, mais hier, ça ressemblait à une campagne de relations publiques là, du côté d'Ottawa, honnêtement. On sent que M. Trudeau, je cherche des idées pour la prochaine campagne. D'ailleurs, le thème de la prochaine campagne, ça devrait dire, autant Ottawa qu'à Québec, ça devrait être bâtir, bâtir, bâtir. Ça devrait devenir une obsession. Et l'idée du plan Marshall, Luc et Paul, je vous donne un exemple. En 2008, on voyait au Québec avec la crise des subprimes aux États-Unis. Là, on disait, mon Dieu, ça va faire mal au Québec, ça va être l'enfer. Le gouvernement a fait quoi à ce moment-là? Il a décidé de bonifier son plan d'infrastructure. Et là, on s'est mis à construire au Québec, dans tous les secteurs d'activité. Résultat, on n'a pas vécu la tempête sur le plan économique qu'ont vécu les États-Unis. Alors, on pourrait s'inspirer de ce qui a été fait en 2008 pour reproduire un peu le même modèle, mais cette fois-ci dans la construction, parce que la construction, ça a toujours été un vecteur important de croissance économique. Hein? Quand on dit quand la construction va, tout va. Mais là, ce qu'on annonce en termes de mise en chantier, c'est famélique par rapport à nos besoins. Alors, je dis, les gouvernements devraient se mobiliser plutôt que d'annoncer des mesures cosmétiques, accessoires et dire à fond la caisse, à fond sur la pédale, puis c'est oui, la santé, l'éducation, mais d'abord, avant tout, ce que ça prend, c'est du logement, un toit exactement, bâtir. On vient de trouver, Luc et Paul, le nouveau slogan, le prochain slogan de la campagne électorale.
Oui, donnez-vous un toit à l'Assemblée nationale et pour ça, donnez un toit aux citoyens, quelque chose de même. Juste vous dire que les propriétaires redoutent le registre, ben, parce que ça a augmenté de 18,7% l'an passé, ça vous dit-tu pourquoi ils redoutent le registre, mais aussi parce qu'ils ont peur qu'il y ait du magasinage de bail. Donc, si c'est rendu public, par exemple, tu payes 800 $ pour un 5,5, que quelqu'un aille chez cette personne-là et dit « OK, moi, je t'offre tant pour ton bail. » Ils ont cette crainte-là.
Merci à tous les deux. On vous retrouve, dans mon cas, la semaine prochaine. Hein? On n'est pas là demain.
Oh, oh!
Oh,
okay. On en profite.
C'est vendredi 5, qu'est-ce que tu veux?
Le film de
la marche du pardon, toutes ces affaires-là.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.